France Info. 20h, 21h, les informés, Camille Revel.
Les informés de France Info, votre heure de débat à la radio, à la télé, sur le canal 27 de la TNT, sur les réseaux sociaux, avec le mot-clé les informés et sur notre site internet franceinfo.fr. Quel est le menu ce soir? Emmanuel Macron dans son costume de chef des armées, discours du chef de l'État devant des militaires. Aujourd'hui, il annonce un commandement militaire de l'espace et rend hommage aux héros. On y avait vu des gilets jaunes ces derniers mois, des militaires demain sur les Champs-Élysées, c'est le défilé du 14 juillet. Quelle importance pour ce rendez-vous, cette institution, quel rapport entre l'armée et la population, on va en parler. Et après ça, vous reprendrez bien un peu de Omar, les dîners de François de Rugy, la rénovation de son logement, semaine de révélation autour du ministre de la Transition écologique. On va se demander si la position du numéro 2 du gouvernement est tenable. Pour en débattre, nos quatre informés sont là avec nous dans le studio de France Info. Bonsoir Nathalie Moret.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste politique au bureau parisien du groupe EBRA. Bonsoir Arnaud Benedetti.
Bonsoir.
Professeur associé en histoire de la communication à l'université Paris 4 Sorbonne. Vous signez le livre Le coup de com' permanent. C'est aux éditions du CERF. Raphaël Kahn, bonsoir.
Bonsoir Camille.
Journaliste présentateur du débat chaque jour sur France 24. Et bonsoir Étienne Girard.
Bonsoir.
Journaliste politique à Marianne. Tout le monde est là. Vous êtes sur France Info. Vous êtes les bienvenus. Ce sont les informés. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Et voilà donc Emmanuel Macron en chef des armées en ce week-end de fête nationale. Le chef de l'État a pris la parole ce soir devant plusieurs militaires au siège du ministère des armées à l'hôtel de Brienne. À Paris, il annonce la création d'un commandement militaire de l'espace au sein de l'armée de l'air qui doit d'ailleurs devenir à terme armée de l'air et de l'espace. Mais d'abord, Emmanuel Macron a rendu hommage aux soldats tombés au combat ou blessés. Écoutez.
Toutes celles et ceux qui, pour leur extraordinaire combat et les opérations menées, sont parmi nous ce soir, qui montrent chaque jour leur volonté de reconstruction, nos blessés, qui demain seront mis à l'honneur devant la France entière. Vous êtes au cœur de nos préoccupations.
Arnaud Benedetti, à travers ce message très solennel d'Emmanuel Macron, il y a une volonté d'établir un symbole, on ne parle pas de la même façon aux militaires?
D'abord, c'est un discours qui est un discours de rassemblement auquel chacun peut souscrire, quelle que soit sa sensibilité politique. Donc, c'est un discours qui permet aussi, et c'est la relation en fait du président de la République à l'armée, de représidentialiser aussi le président de la République. Ensuite, on voit bien que les valeurs qui sont prônées et louées par le président de la République dans cet exercice, c'est des valeurs de sacrifice. Et on sait que la dimension sacrificielle, héroïque, est extrêmement importante dans la rhétorique d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, très souvent, il dit « Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays ». Là, on a une réponse qui est une réponse dramatique, mais à la fois dramatique et puis qui caractérise le sens du devoir.
Ouais, on se souvient des hommages rendus au colonel Beltrame l'an dernier et puis cette année, aux deux soldats tombés lors d'une opération au Burkina Faso pour sauver des otages, Raphaël Kahn. Il y a une volonté chez Emmanuel Macron de rendre hommage, de créer des figures héroïques comme ça.
Oui, on s'en souvient parce qu'il avait annulé, je crois, tous ses vœux sauf ceux aux armées cette année, oui. Précisément pour rendre cet hommage à Cédric de Pierrepont et à Alain Bertoncello qui étaient tombés en libérant ces deux otages lors de cette opération au Burkina Faso pour ces deux otages qui étaient aventurés au Bénin. Il y a aussi la volonté, sans doute, de faire oublier ce qui est dans toutes les têtes encore, c'est-à-dire la précédente intervention, pas celle de l'année dernière, mais la première en fait, de 2017, qui avait coûté, qui avait causé, disons, la démission à l'époque du chef d'état-major des armées, Pierre de Villiers. Ce discours qui avait été perçu comme peut-être pas adapté à ce qu'un président doit dire à des militaires, d'autant qu'il avait été largement, il avait donné lieu à une publicité très large en rappelant « je suis votre chef » et quand on a besoin de le rappeler, souvent c'est qu'on n'est pas forcément considéré par le chef.
Ça, c'était en 2017, Étienne Girard. Depuis, est-ce que les relations entre Emmanuel Macron et l'armée se sont améliorées?
En tout cas, Emmanuel Macron s'échine à retisser un lien avec ses armées et il ne perd jamais une occasion de louer les qualités des militaires, leur sens du sacrifice, leur héroïsme, etc. En réalité, quand on discute avec des militaires, en tout cas des militaires gradés, on sent qu'il y a des pots cassés qui ne se réparent pas en quelque sorte et que ce divorce de juillet 2017, il a pas abouti à un rabibochage parce que quand on critique en public le chef d'état-major des armées, quand on est un gradé de l'armée, on se sent personnellement humilié, en quelque sorte. Et rappelez-vous d'ailleurs, dans les jours qui ont suivi ce recadrage du président de la République, il y a des images qui avaient fuité d'une aide d'honneur adressée à Pierre de Villiers, au général Pierre de Villiers. Et ça, c'était des images inédites, jamais vues. Vous imaginez un général remercié et on diffuse des images de aide d'honneur. Ça avait énormément déplu à Emmanuel Macron, qui a vu des images quasi factieuses.
Et Nathalie Moret, Emmanuel Macron, il s'y sent bien maintenant dans ce costume de chef des armées. Est-ce qu'il y est à l'aise? Est-ce qu'il lui va?
Il a toujours aimé ça, en tout cas. Rappelez-vous, lorsqu'il a été intronisé président de la République il y a un petit peu plus de 2 ans, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il est descendu, il a descendu les Champs-Élysées sur un
commande-car.
Voilà, merci. Je suis pas spécialiste, mais du coup, c'était l'image était très forte, surtout pour un jeune président dont on imagine que la relation peut-être à l'État est pas aussi forte. Pour reprendre ce que vous disiez, Camille, effectivement, le président de la République traite l'armée, et l'armée, effectivement, elle aussi, je trouve, fait beaucoup d'efforts pour câliner, ou en tous les cas pour refaire un petit peu cette relation qui a été un petit peu difficile avec le président de la République. J'en veux pour preuve le général Lecointre, qui communique beaucoup en ce moment. Demain, il donne une interview dans tous nos journaux du groupe EBRA, où effectivement il redit que l'image de l'armée est excellente, que la nation est derrière son armée, on va le voir d'ailleurs demain sur les Champs-Élysées, et que surtout il se place dans la stricte subordination du militaire au politique, donc il remet bien lui-même l'armée à sa place, c'est-à-dire que le chef, c'est Emmanuel Macron, et le général Lecointre le dit dès qu'il en a l'occasion.
Donc pas d'insubordination, c'est
ça ? Non, c'est pas à l'ordre du jour.
Eh bien, on va reparler de tout ça juste après l'essentiel de l'actualité. Il est 20h10 et c'est à vous, Solène Cressan.
Un grand commandement militaire de l'espace créé dès septembre annonce d'Emmanuel Macron ce soir pendant son traditionnel discours aux armées. À la veille du 14 juillet, ce commandement de l'espace fera partie de l'armée de l'air. Le président de la République assure que la France protégera mieux ses satellites. Ils ont interdiction de se rassembler demain malgré un appel sur les réseaux sociaux. Plusieurs centaines de gilets jaunes ont défilé cet après-midi à Paris. Et cette semaine, de nouveaux slogans en lien avec l'affaire de Rugy et ses dîners fastueux organisés avec des deniers publics. Omar, partout, justice, nulle part, ou encore de Rugy en prison. Le réfugié politique syrien soupçonné d'avoir violé et tué une femme de 24 ans à Mont-de-Marsan est mis en examen cet après-midi. Il a été reçu par un juge d'instruction. Son ADN a été retrouvé sur le corps de Johanna Blanes, retrouvée dimanche dernier dans un tunnel sous une voie SNCF. Le principal suspect continue de nier les faits. Barry vient de toucher les terres de Louisiane aux États-Unis. Il est rétrogradé en tempête tropicale. Ce n'est plus un ouragan, mais on craint des inondations dangereuses. La région reste traumatisée par l'ouragan Katrina de 2005 qui avait tué 1800 personnes. Un Français en jaune sur le Tour de France pour le 14 juillet. Julien Alaphilippe récupère le maillot jaune. Il termine 3e de la 8e étape entre Mâcon et Saint-Etienne. Le Belge Thomas Torrent arrive le premier. Thibaut Pinot, lui, est 2e et même 3e au classement général.
France Info. 20h, 21h, les informés. Camille Revel.
Sur ce commandement militaire de l'espace dont Emmanuel Macron annonce la création ce soir, Étienne Girard, c'est un effet d'annonce ou c'est une vraie mise en place? Ou c'est difficile à dire?
On a assez peu de précisions en réalité à l'heure qu'il est. On ne connaît pas le budget, on ne connaît pas exactement les missions de ce nouveau commandement. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est totalement en phase avec la communication et le personnage politique qu'essaye d'incarner Emmanuel Macron, c'est-à-dire un président qui se projette dans les enjeux du futur, un président qui réforme en regardant vers l'avenir. Et il n'y a rien de plus englobant et qui représente plus les enjeux du futur que l'espace, voilà, la conquête spatiale.
Raphaël Cahen.
Ce qui est assez amusant, c'est que ça fait écho à une annonce de Donald Trump qui avait un peu fait rire, il faut le dire quand même ici en France. Alors, est-ce que celle d'Emmanuel Macron sera prise davantage au sérieux? Toujours est-il, donc, il annonce effectivement ce commandement militaire dédié à l'espace au sein de l'armée de l'air, alors que pour Donald Trump, il s'agissait d'une 5e branche, en fait, de l'armée. Alors, Quelle différence? Peut-être qu'on a moins de moyens en France à dédier spécifiquement à l'exploration de l'espace. Et dans quel but? C'est un peu la question. Mais on sait de toute manière que sans doute les guerres du futur se mèneront notamment sur les moyens de communication et sur les moyens satellites. Alors c'est quand même pas idiot effectivement d'envisager ça sous l'angle de l'espace.
Arnaud Benedetti.
Non, mais il est clair que de toute façon les technologies spatiales sont des technologies duales, à la fois civiles et militaires, et que de toute façon l'espace a toujours eu une composante militaire qui a tiré les politiques publiques en matière spatiale aux États-Unis. Ce qui tire par exemple l'investissement spatial, c'est l'investissement dans la défense. C'est quelque chose d'absolument essentiel. Et je crois quand même, il y a quelque chose d'important à souligner, c'est que au-delà de l'aspect de communication, c'est surtout la prise en compte justement de la dimension spatiale aujourd'hui dans le déploiement des forces. C'est absolument essentiel. Souvenez-vous, quand il y a eu la première guerre d'Irak en 1991, les Français étaient très dépendants des satellites d'observation américains. Et c'est à partir de 1991 qu'on a décidé de mettre en place des satellites d'observation spécifiquement dédié à la défense. Donc il y a là quand même, au-delà de l'effet de l'annonce, une volonté quand même d'intégrer cet outil, qui est un outil stratégique, dans les moyens plus généraux de l'armée.
On parlait tout à l'heure du départ du chef d'état-major Pierre de Villiers, il y a deux ans, en 2017, sur fond de crise budgétaire, de remontrance d'Emmanuel Macron, de désaccord. Cette question budgétaire, le chef de l'État y est revenu tout à l'heure dans son discours, écoutez.
L'effort budgétaire pour notre défense sera donc tenu. Il sera tenu parce que le contexte stratégique le nécessite. Il sera tenu parce que c'est ma responsabilité de chef des armées de voir loin, de ne jamais céder aux sirènes du court terme, mais au contraire, de maintenir notre nation dans le temps long de l'histoire.
Nathalie Moret, on parlait tout à l'heure du costume de chef des armées d'Emmanuel Macron. Là, on est dans un cas de figure...
C'était une promesse classique de campagne. C'était une promesse de campagne et pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de promesses de campagne qu'il a laissées de côté. Et je vous rappelle que la loi de programmation militaire, elle a été adoptée l'année dernière, quasiment jour pour jour, à la veille du 14 juillet. Donc c'est pas un hasard si aujourd'hui, politiquement, à la veille du 14 juillet, il rappelle qu'il est sur sa trajectoire et qu'il la suit.
Une trajectoire qui doit mener à 2% du PIB, les dépenses militaires. On est loin, c'est la moitié de ce que réclame Donald Trump à ses partenaires de l'OTAN.
Alors, est-ce qu'Emmanuel Macron peut se comparer à Donald Trump, le commander in chief, Arnaud Benedetti, en comportement vis-à-vis de l'armée ou pas?
C'est tout à fait différent. Il est clair qu'en plus, Emmanuel Macron appartient à une génération de nouveaux leaders politiques qui ont un rapport à l'armée et un rapport, j'allais dire presque à la guerre, qui est tout à fait différent des générations précédentes, qu'il s'agisse de François Mitterrand ou de Jacques Chirac, qui étaient des présidents de la République qui avaient connu des guerres. François Mitterrand, la Seconde Guerre mondiale, Jacques Chirac, la guerre d'Algérie. Donc on a là une nouvelle génération. En plus, bon, il fait partie de cette génération, j'allais dire presque post-service militaire aussi. Emmanuel Macron, c'est le premier président qui manifestement n'a pas fait son service militaire. Donc là, il doit certainement peut-être plus que ses prédécesseurs surinvestir pour finalement disposer d'une crédibilité dans cette fonction.
Étienne Girard, vous partagez
l'enjeu militaire, il était incontournable dans sa stratégie de, vous savez, la présidence jupitérienne. Il pouvait pas faire l'impasse sur un rapport particulier et proche à l'armée. C'est pour ça que dès le début, il remonte, ça a été dit par Nathalie, les Champs-Élysées en commande-car. C'est pour ça qu'il s'habille, il a été moqué d'ailleurs un peu pour ça, en officier marine, en officier de l'armée de l'air, mais patatras, avec la démission ou le limogeage de Pierre de Villiers au tout début du quinquennat. Donc il essaye de retisser depuis deux ans pour réincarner la présidence jupitérienne aussi à l'égard de l'armée.
Et puis au-delà du positionnement et de la stratégie politique, il hérite quand même, il faut le dire, d'un conflit, d'un théâtre de guerre au Mali, où la France est quand même loin d'avoir gagné la partie. Il y a 4000 Français, 4000 soldats qui sont engagés aujourd'hui dans les forces du G5 Sahel. Et on observe pratiquement toutes les semaines de nouveaux attentats avec cette fois-ci un conflit qui prend un tour ethnique dans le nord du Mali. Et là, la France risque d'être engagée encore pour très longtemps dans cette région du monde.
C'est un président guerrier, Emmanuel Macron.
pas plus que François Hollande, qui avait quand même déployé les forces françaises en Afrique à plusieurs reprises. Mais c'est pas non plus une colombe, dans la mesure où il a jamais remis en cause la présence française sur différents théâtres d'opération. Et au contraire, il est en faveur d'une solidification, une consolidation des présences françaises sur les théâtres, notamment en Afrique.
Vous dites, Étienne Gérard, c'est pas une colombe, mais est-ce que c'est un faucon ? Arnaud Benedetti, où je vois faire l'amour ?
Non, je suis pas sûr que ça soit un faucon. Je crois qu'il est assez, il a plutôt une politique assez, c'est plutôt de la réelle politique. Emmanuel Macron, d'ailleurs, on le voit sur le plan diplomatique également. C'est quelqu'un qui essaye finalement d'avoir une relation avec les ensembles géopolitiques tels qu'ils sont. On parle très peu de droits de l'homme, hein, d'ailleurs. Hein, vous constaterez dans ce mandat présidentiel. Donc c'est plutôt ça aujourd'hui sa politique. Mais il y a un autre aspect avec l'armée. Je pense que ce qui joue aussi, c'est qu'il a compris que il y avait une grande adhésion de l'opinion publique à l'armée. Et donc, finalement, il capitalise aussi sur cette adhésion en disant, montrant tout l'intérêt qu'il porte à l'armée. Et puis, de toute façon, c'est son rôle constitutionnel.
Nathalie Morel,
il suffit d'être allé en reportage un 14 juillet sur les Champs-Élysées pour voir l'attrait assez incroyable qu'a ce défilé militaire dont la force est pleinement assumée. Hein, un défilé militaire, il n'y en a quand même pas beaucoup dans beaucoup de pays, pour voir à quel point, effectivement, les Français sont attachés à leur armée. Et c'est d'autant plus visible, je trouve, en ce moment, que les policiers, eux, sont extrêmement décriés. Donc on a à la fois l'armée qui ne fait pas de maintien de l'ordre et qui exerce une force comme ça d'aura sur la société française, au moment même où les personnes chargées du maintien de l'ordre sont extrêmement décriées. L'un est effectivement... Ça fait une vaste communication.
Raphaël Kahn, vous le ressentez.
C'est amusant d'ailleurs ce que vous dites sur la popularité de l'armée et notamment du défilé militaire ici en France. Quand on voit les yeux écarquillés aux États-Unis face à l'initiative de Donald Trump, au-delà du coût du défilé militaire, c'est l'opportunité même d'un défilé militaire qui posait question dans ce pays où pourtant le rôle de l'armée n'est pas en cause.
Donald Trump qui était venu le 14 juillet 2017 voir le défilé à Paris. On va en parler de ce défilé justement. Ce sera demain le 14 juillet. Emmanuel Macron sera bien sûr sur place. Le défilé sur les Champs-Élysées. 4300 militaires. Je vous donne quelques chiffres vite fait. 196 véhicules, une centaine d'avions et d'hélicoptères. C'est un rendez-vous essentiel, ça, Arnaud Benedetti, le défilé du 14 juillet ?
Ah ben, c'est essentiel, parce que c'est vraiment, pour le coup, l'événement qui permet de rassembler la nation. Et il y a quand même un lien particulier entre l'armée et la nation. Il faut jamais oublier que la nation est une création de la Révolution française et que l'armée a joué un rôle absolument essentiel dans le mythe révolutionnaire. Donc, il y a là un imaginaire qui reste profondément ancré dans les consciences. Et il y a un autre aspect, et vous parliez de la forte popularité des armées, c'est que, souvenez-vous, dans les années 70, il y avait un fort courant antimilitariste qui existait dans la société française, et ce fort courant antimilitariste a quasiment disparu.
On va continuer de parler de tout ça juste après l'essentiel de l'actualité sur France Info. Il est 20h20, et c'est à vous, Solène Cressan.
À la fois somptueux et respectueux, dit la mairie, Nice célèbre le 14 juillet ce soir un feu d'artifice un jour en avance à la demande des familles des victimes de l'attentat du 14 juillet sur la promenade des Anglais. C'était il y a 3 ans, la ville leur rendra hommage demain. 86 faisceaux vont illuminer le ciel, autant que de personnes tuées ce jour-là. Une vitesse manifestement excessive selon le procureur de la République de Montpellier au sujet du chauffard qui a tué une femme jeudi soir en pleine célébration des supporters de l'équipe de foot d'Algérie. Le parquet requiert son placement en détention provisoire. L'homme a 21 ans et il a son permis depuis 4 mois. Le fils de Latifa Inziaten en garde à vue. Il disait avoir été agressé jeudi, mais il est soupçonné d'avoir tout inventé. C'est le frère du militaire abattu par Mohamed Merah en 2012 à Toulouse. Sa version et celle de voisins ne concordent pas et elle n'est pas plausible. Londres l'assure, le pétrolier iranien retenu à Gibraltar sera rendu si Téhéran apporte des garanties sur sa destination. Depuis une semaine, les autorités britanniques retiennent le navire rempli de pétrole. Elles le soupçonnent de faire route vers la Syrie, alors qu'un accord international l'interdit. L'Iran assure ne pas chercher l'escalade. Et puis la canicule et ses conséquences, pas seulement sur la nature, extrêmement néfaste pour la collecte du don du sang. C'est ce que dit le docteur Jamel Benomar sur France Info, responsable de la collecte en Ile-de-France. Il estime avoir perdu 10 000 poches. Les fortes chaleurs de juin ont fait baisser le nombre de donneurs.
France Info. 20h, 21h, les informés, Camille Revel.
Et on continue de parler de cette tradition pour la fête nationale. Le 14 juillet, le défilé sur les Champs-Élysées des militaires, des véhicules, des avions, des hélicoptères. Ce moment, c'est toujours une institution, Raphaël Kahn. Aujourd'hui, en 2019 aussi.
Ah bah sans doute, oui. Camille, on le voit, enfin, il y a une attente. C'est aussi l'occasion de délivrer des messages, parce que je crois que demain, il va être question beaucoup d'innovation et de forces européennes, initiatives européennes d'intervention. Hein, c'est ce qu'avait lancé Emmanuel Macron. Il y aura notamment Angela Merkel sera présente ensuite pour un déjeuner à l'Élysée. Il y aura Marc Rutte, il y aura d'autres leaders européens, Jean-Claude Juncker. Donc, c'est l'occasion aussi de délivrer des messages. On se souvient d'ailleurs d'une invitation, de plusieurs invitations faites précédemment. Vous avez cité Donald Trump. On se souvient avoir vu Bachar el-Assad, notamment, hein, sur les Champs-Élysées, avant le déclenchement de la guerre en Syrie. C'est une manière peut-être de montrer aussi l'orientation de la politique étrangère de la France.
Étienne Girard, ça sert à quoi le défilé du 14 juillet? Bon, vous n'avez pas 4 heures. Hein.
Ah. À retisser le lien entre la nation et les forces militaires, en tout cas à exalter ce lien et qui est ces forces militaires qui passionnent les Français, à délivrer des messages politiques, évidemment. En 2017, c'est pas un hasard si l'invité de marque était Donald Trump. Emmanuel Macron voulait montrer que sa présidence serait marquée sous le sceau du couple franco-américain. Cette année, le message, il est tout aussi clair. C'est de montrer qu'il est un des leaders avec Angela Merkel qui démissionnera bientôt, qui quittera bientôt son poste de Premier ministre d'Allemagne, un des leaders de l'Europe. C'est pour ça qu'il invite des leaders européens et qu'il y aura une présentation d'une force européenne de défense, ce qui est une innovation. Et alors, vous parliez de la passion de la France pour l'armée. Moi, il y a quelque chose qui m'avait marqué, c'était le tollé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand Eva Joly, candidate à l'élection présidentielle en 2012, avait proposé de supprimer le défilé militaire du 14 juillet. Ça n'avait jamais été proposé auparavant et on avait eu droit à un déluge de réactions absolument outrées et qui montrent bien que pour les Français et aussi pour les responsables politiques, il y a un attachement vraiment extrêmement important à ce moment-là.
Non, mais il faut aussi rappeler que l'armée est un instrument de rayonnement de la France à l'international. Il n'y en a pas tant que ça, finalement. Et aujourd'hui, on est capable de déployer des hommes sur un certain nombre de théâtres d'opérations. Ça, c'est une réalité. Chacun s'accorde à reconnaître le très grand professionnalisme, voire l'élitisme des corps qui constituent l'armée. Et c'est quand même un élément qui permet encore à la France de peser sur la scène internationale, bien plus que l'économie. Et ça, c'est extrêmement important, je crois, dans la relation que le président de la République peut avoir avec ses homologues, ses autres homologues chefs d'État.
Vous parliez de faire passer,
notamment chefs d'État européens.
Vous parliez de faire passer des messages demain en clôture de ce défilé du 14 juillet. Il y aura des blessés d'hier et d'aujourd'hui, des soldats blessés. Il y aura aussi des jeunes du service civique et une délégation d'adolescents qui viennent de passer 12 jours à tester le SNU. Vous savez, c'est le Service National Universel Innovation d'Emmanuel Macron, critiqué, repoussé, finalement testé. Alors pour mémoire, ces jeunes volontaires, ils sont 2000 en tout, ils viennent de passer 12 jours ensemble. L'objectif, je cite, c'est de développer une culture de l'engagement, d'accroître la cohésion et la résilience de la nation. Les mettre dans ce défilé-là, Nathalie Moret, c'est une façon aussi de faire passer un message pour Emmanuel Macron.
Alors en même temps, c'est un défilé militaire et eux, ils font leur service national. Je trouve qu'il faut faire attention, mais il y a souvent une ambiguïté. Hein. Ce n'est pas le retour du service militaire, c'est un service national. Oui, moi je suis assez partagée sur ce service national. Je ne suis pas complètement certaine que ça fasse renaître le sentiment d'appartenance à une nation, parce que ça me paraît quand même très très court. En revanche, ce qui est très net sur le défilé du 14 juillet, pour y être allé à plusieurs reprises faire des reportages, c'est que justement, il y a énormément de jeunes qui sont massés le long des barrières des Champs-Élysées et des gens qui, politiquement, viennent de tous les horizons. C'est quand même assez saisissant. Donc effectivement, vous le verrez, vous le rappeliez, je pense pas qu'il y a 30 ans, dans les années 70, il y avait beaucoup de gens qui votaient à gauche, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient massés pour le défilé du 14 juillet. Aujourd'hui, si, c'est le cas. Est-ce qu'il y aura de plus en plus de jeunes parce qu'il y aura un service national qui va se développer? C'est une question, moi j'en suis pas complètement je suis certaine.
Raphaël Kahn.
Oui, il y a un côté un peu gadget, hein. On a l'impression dans ce service national, c'était un argument, on l'entendait répéter depuis une dizaine d'années, il fallait effectivement redonner un élan patriotique à la jeunesse. C'est vu un peu aussi comme une manière de faire preuve d'autorité à l'heure où on dit que l'autorité est très contestée, mais enfin bon, vu la durée et les moyens qui sont engagés, on peut effectivement douter de l'impact que ça va avoir, autre qu'en termes d'affichage. Après, sur le défilé en tant que tel, est-ce que ça représente, ce que ça incarne pour les gens, et effectivement des gens de toutes obédiences, là aussi c'est amusant de voir la différence énorme avec la manière dont a été reçu le premier défilé militaire, donc à Washington là dernièrement, où là vraiment il y a un étonnement général, les gens n'ont pas compris vraiment à quoi ça servait, et certains ont même été choqués du fait de faire défiler les militaires, un peu à l'image d'Eva Joly. Donc c'est là où on voit qu'il y a, vraiment une dimension un peu culturelle aussi.
On va continuer à parler de ce défilé du 14 juillet qui pourrait aussi être marqué par la présence de gilets jaunes. On va parler de tout ça dans 5 minutes sur France Info. Les informés reviennent juste après votre météo et l'info. Toujours avec nous sur le plateau de France Info, Nathalie Moret, Arnaud Benedetti, Raphaël Kahn et Étienne Jarre. Tiens, on parlera un petit peu de homard aussi, puisqu'il sera bientôt l'heure de passer à table. À tout à l'heure.
Alice voyage avec Ulysse. Vous savez, le badge de télépéage qui permet à Alice de passer en souplesse tous les péages de France et de Navarre. Et l'expression est on ne peut plus juste, car la Navarre est une région de l'Espagne et que désormais, en Espagne comme au Portugal, le badge d'Alice fonctionne aussi grâce à Ulysse Europe. Cocorico donc ! Et même Kirikiki, puisque c'est ainsi que les coqs s'expriment au-delà des Pyrénées.
Ulysse, le télépéage par Vinci Autoroute. Abonnez-vous sur ulysse.com ou en boutique Ulysse.
C'est malin, c'est Ulysse.
Politique, culture, international, sport, économie. Pour l'info 24h sur 24, France Info, 2 points, ouvrez l'info.
France Info Météo, avec le CIC, banque numéro 1 au podium de la relation client 2019. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Que nous réserve le ciel ? La réponse tout de suite avec vous, Jean-Michel Golinski.
Pas mal de soleil en vue pour cette journée du 14 juillet, sauf sur les Hauts-de-France où l'ambiance sera quand même plus chargée. Et puis on notera un faible risque d'ondées et de coups de tonnerre l'après-midi des Alpes frontalières aux régions du quart nord-est et un peu de pluie sur les Pyrénées en matinée. Le vent orienté au secteur nord sera assez sensible dans l'ensemble, vers 40 km à l'heure en général, 50 près de la Manche, 60 à 70 du golfe du Lion à la vallée du Rhône. Les températures maximales stationnaires sur la moitié ouest avec par exemple 26 à Brest, Paris et Tarbes, 28 à Rennes, 30 à Nantes et Cognac, 31 à Toulouse, des valeurs qui vont perdre environ 2 degrés par rapport à aujourd'hui dans l'est, voire jusqu'à 5 sur la Lorraine et l'Alsace, avec par exemple 21 degrés au meilleur de la journée à Mulhouse et à Strasbourg et 22 à Metz.
Et à passer une excellente soirée avec nous à l'écoute de France Info. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, il est 20h30.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Lauriane Delanoë pour l'info.
Un premier feu d'artifice de la fête nationale ce soir à Nice, premier depuis l'attentat de 2016 quand un terroriste avait foncé dans la foule avec un camion. 86 personnes tuées, 450 blessées. Ce feu d'artifice ce soir sur le thème de la Renaissance est donc tiré le 13 juillet et non le 14 à la demande des associations de victimes. Nice partagée entre le souvenir et le choix de la vie, d'après le premier adjoint Philippe Pradal.
Il y a toujours une immense émotion et je pense qu'elle ne disparaîtra pas avant très longtemps. Elle relève de plus en plus de l'intime, du parcours personnel, même si nous nous trouverons, et le 13 juillet au soir et le 14 juillet au soir, des moments où nous souhaiterons en tant que collectivité rendre hommage à ceux qui ont souffert. Avec un feu d'artifice qui sera à la fois somptueux et respectueux, il est sur le thème de la Renaissance. Il faut choisir la vie, parce que c'est choisir la vie qui assure à la fois la fidélité du souvenir et la résilience. Donc nous sommes sur ce chemin-là. Et le lendemain aussi, un concert symphonique qui aura lieu le soir et qui précédera un allumage de faisceaux lumineux à la demande des victimes et de leurs proches sur la promenade des Anglais pour faire mémoire des 86 victimes qui ont perdu la vie.
Philippe Pradal, premier adjoint à la mairie de Nice. À la veille du 14 juillet, Emmanuel Macron annonce ce soir la création d'un commandement de l'espace. Il sera lancé en septembre par l'armée de l'air, renommée armée de l'air et de l'espace. Le président promet des investissements dans les technologies spatiales, notamment pour mieux protéger les satellites français. Le procureur de Montpellier demande ce soir le placement en détention provisoire du chauffard qui a percuté et tué une femme avant-hier soir. C'était en pleine célébration de la qualification des footballeurs algériens pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Le conducteur roulait à une vitesse manifestement excessive, d'après le procureur. L'électricien de 21 ans assure qu'il n'est pas un supporter des Fenech. De fortes pluies et du vent fort aussi sur les côtes de Louisiane aux États-Unis. Barry touche les terres et perd légèrement en intensité. Le centre américain des ouragans le rétrograde en tempête tropicale. Des milliers d'habitants évacués, d'autres se calfeutrent chez eux à la Nouvelle-Orléans. Julian Alaphilippe endosse à nouveau le maillot jaune du Tour de France. Le cycliste berrichon, troisième de la huitième étape aujourd'hui, derrière le Belge Thomas de Rent, vainqueur, et Thibaut Pinot, le Français, deuxième de cette étape, pardon, et qui monte sur le podium à la troisième marche. Au programme demain, 170 km entre Saint-Étienne et Brioude en Haute-Loire. La paire française Nicolas Mahut et Édouard Roger Vasselin menés en ce moment en finale du double masculin à Wimbledon, menés 2-7-1 par les tennismen colombiens Juan Sebastián Cabal et Robert Farah. Et tout à l'heure cet après-midi, la Roumaine Simona Halep s'est imposée en finale dames face à Serena Williams, pas de record donc pour l'américaine. 20h33 sur France Info, la suite des informés, Camille Revel.
20h-21h, les informés, Camille Revel.
Mais je ne suis pas seule dans le studio des informés. Nos quatre informés sont toujours là. Nathalie Moret est toujours avec nous, journaliste politique au bureau parisien du groupe Ebra. Arnaud Benedetti, professeur associé en histoire de la communication à l'université Paris 4 Sorbonne. Raphaël Kahn, journaliste présentateur du débat chaque jour sur France 24. Et Étienne Girard, journaliste politique à Marianne. Il y a 5 minutes, nous parlions du défilé du 14 juillet. On va donc voir des militaires, des chars, des hélicoptères sur les champs. On pourrait voir des gilets jaunes. Ils étaient quelques centaines à manifester à Paris. Aujourd'hui, il y a des appels à manifester à nouveau demain pour la fête nationale. Il y a notamment un appel à tourner le dos à Emmanuel Macron pour ce défilé du 14 juillet. Nathalie Moret, est-ce que ça peut être une manifestation remarquée? Est-ce que ça peut être un coup d'éclat des gilets jaunes, ça?
Ils appellent à tourner le dos au président de la République et à le huer. Alors effectivement, je ne sais pas si ça peut se voir, parce qu'il y aura beaucoup de monde, ça peut en tout cas s'entendre. Reste à savoir si effectivement, aujourd'hui, il y a eu très très peu de monde. Il y a eu quelques centaines de personnes portant un gilet jaune qui ont défilé à Paris. Est-ce que demain, le 14 juillet, il va y avoir du monde? Moi, j'ai quand même un peu le sentiment... qu'on est sur le baroud d'honneur et que ce mouvement, dont je n'exclus pas qu'il puisse rebondir à la prochaine rentrée, est quand même en fort déclin. Certes, là, on a François de Rugy qui leur donne quelques raisons de rebondir, puisque je suis allée faire un tour sur les pages Facebook et effectivement, on voit qu'au niveau des jeux de mots... Les gilets jaunes rebondissent sur leur page Facebook, mais j'ai le sentiment que ça reste au niveau d'Internet et des réseaux sociaux et qu'ils sont de moins en moins présents dans la rue.
Ça ressemble à un baroud d'honneur pour vous, Raphaël Kahn, aussi, pour reprendre les mots de Nathalie Moret?
Eh ben on verra. Il y a 75 000, on en parlait tout à l'heure, 75 000 personnes, visiteurs sur la page qui appellent effectivement à manifester demain, 12 000 qui se disent prêts à manifester. Alors si effectivement il y a 12 000 personnes sur les Champs-Élysées, ça fait du monde, ça risque de se voir. Moins que ça, ils seront peut-être dilués dans la foule parce qu'il y aura un effet de masse. S'ils se contentent de tourner le dos à Emmanuel Macron, bah finalement c'est le moindre mal. C'est-à-dire qu'on aurait préféré que depuis le début, ils tournent le dos dans les manifestations. Il n'y aurait effectivement pas eu de scène de vandalisme comme celle auquel on a pu assister. Après, est-ce que l'affaire Rugy peut leur donner un second souffle? Parce que c'est ça finalement la question. En tout cas, c'est vrai qu'il y a tous les éléments pour exacerber l'agacement et sans doute aussi le dépit envers la classe politique.
Eh bien, puisque vous parlez de l'affaire François de Rugy, je vous propose d'écouter justement des gilets jaunes. Ils étaient rassemblés tout à l'heure devant le ministère de la Transition écologique, le ministère de François de Rugy. Donc écoutez.
France veut du logement, France veut du logement, France veut du logement,
Voilà, c'est un slogan assez simple à retenir, hein, finalement. On veut du homard. Tout à l'heure, vous parliez de jeu de mots, Nathalie Moret. Effectivement, on a vu homard matué passer sur les réseaux sociaux. Pourquoi homard matué? Bien sûr, parce que le ministre de la Transition écologique numéro 2 du gouvernement est au cœur d'une série de révélations pour le moins embarrassantes, révélations de Mediapart. Alors d'abord, il y a eu celle des dîners fastueux à l'hôtel de Lassé, lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale avec ses homards pris en photo. Ensuite, il y a eu ses travaux dans son logement de fonction pour plus de 60 000 euros. Il fallait rénover régulièrement ce bâtiment, dit le ministre. On apprend aussi hier soir qu'il n'a pas payé d'impôt sur le revenu en 2015. Alors, situation conforme à la loi. À l'époque, François de Rugy était député. François de Rugy, ce soir, il dénonce un acharnement. Déjà, question Nathalie Moret, est-ce que toutes ces affaires, tous ces dossiers qu'on évoque, ils ont le même poids pour l'opinion publique, ou est-ce qu'il y en a un qui est particulièrement terrible?
Il y en a un qui est particulièrement terrible, ce sont les homards, puisque effectivement, on apprend que le président de l'Assemblée nationale à l'époque aurait invité à sa table des hauts dignitaires étrangers ou des homologues, des amis à lui ou des gens de son cercle d'amis à qui il aurait servi des mets très fins et des bouteilles hors de prix. Et sortir un ICAM à 500 euros, la bouteille, c'est à hauteur d'homme. Et c'est ça que les gens retiennent. Plus que finalement, ils ne payent pas d'impôts, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne payent pas d'impôts, y compris des forts revenus, parce que, effectivement, vous l'avez rappelé, c'est tout à fait possible de déduire un certain nombre de frais, comme l'a fait le ministre. Donc, effectivement, c'est le homard qui marque les esprits. Les photos sont absolument terrible. Et comme il est politiquement extrêmement isolé, puisqu'il n'a pas de troupes, il y a peu de gens qui sont venus à la rescousse le soutenir. Et on trouve là aujourd'hui un ministre extrêmement affaibli.
Arnaud Benedetti, je m'adresse au spécialiste de la communication. Qu'est-ce qu'il peut faire là, François de Rugy?
Non, mais d'abord, je crois que, si vous voulez, le niveau de tolérance par rapport à ces pratiques aujourd'hui, c'est considérablement abaissé. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, 30 ans, ce type de pratique existait et l'opinion publique réagissait beaucoup moins qu'elle ne réagit aujourd'hui. Alors en plus, il y a les réseaux sociaux qui, certainement, d'une certaine façon, renforcent ce sentiment. En plus, on est dans un contexte qui est marqué par la crise des Gilets jaunes, où tout ce qui s'apparente de près ou de loin à une forme de privilège est profondément contesté. Alors lui, aujourd'hui, le problème, c'est qu'il est dans une communication où il court après les événements, puisque on voit maintenant depuis 3 jours, 4 jours, qu'il est obligé de répondre à un certain nombre de révélations. Le problème, c'est que en communication de crise, on n'est jamais aussi bon que lorsqu'on peut anticiper les événements. Là, en l'occurrence, il n'a pas pu les anticiper, il est subi. Et on a le sentiment qu'il y a un feuilleton qui est en train progressivement de se tisser. Et il a une autre difficulté, c'est que il vient de l'écologie, d'abord, lui, et qu'il est ministre de l'écologie dans un gouvernement qui a fait de la priorité environnementale un axe fort, voire un axe essentiel du fameux acte 2. Donc le problème pour lui, ça va être de pouvoir être crédible, de pouvoir être audible surtout avec une affaire qui aujourd'hui l'empêche véritablement de se consacrer pleinement à la défense de cette priorité gouvernementale.
Mais il est encore crédible, il est encore audible, François de Rugy, ce soir, Étienne Girard?
Non, il est pas audible, et il est pas audible pour un bon moment. Sa défense, elle est fillonesque, en réalité. Dans un premier temps, je ne comprends pas ce qu'on me reproche, j'ai tout bien fait, circuler, il y a rien à voir, et alors, ça va choquer qui? Ça, c'est le premier axe. Et ensuite, donc c'est je n'aime pas le homard, et ensuite c'est un acharnement contre moi, Mediapart, la presse, essaye de me détruire, le complot. Et donc là, en début de semaine prochaine, on aura le complot. En réalité, vous venez de le dire, il court après les événements, il est plus du tout audible, c'est une épine dans le pied du gouvernement aujourd'hui.
Et une note rapidement en matière de communication, Arnaud Benedetti pour François de Rugy, c'est un 0 pointé là?
Pas très loin.
Pas de réponse, 20h40, l'essentiel de l'info, ça c'est avec vous Solène Cressan.
En plus de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, il y aura bientôt un commandement de l'espace. Emmanuel Macron l'annonce ce soir dans son traditionnel discours aux armées. Nous protégerons mieux nos satellites, a dit le président à la veille du défilé des Champs-Élysées. Ce commandement fera partie de l'armée de l'air. Et pour les festivités du 14 juillet, sécurité renforcée à Paris. 2500 policiers mobilisés parce qu'en plus du défilé, les autorités craignent des débordements liés aux gilets jaunes qui appellent à manifester sur les champs. Crainte aussi des supporters supporters de l'Algérie, alors que l'équipe joue en demi-finale de la CAN demain soir face au Nigeria. Un manifestant, gilet noir, présenté demain au parquet pour décider des suites judiciaires. Il fait partie de la mobilisation au Panthéon hier à Paris, où plusieurs centaines de sans-papiers ont réclamé leur régularisation en occupant le monument. Ce soir, 21 migrants sont toujours en rétention administrative. Des milliers de Soudanais réunis un peu partout dans le pays pour rendre hommage aux manifestants tués le 3 juin pendant la dispersion d'un sit-in à Khartoum. Au moins 136 personnes sont mortes ce jour-là, alors qu'elles demandaient aux militaires au pouvoir de partir. Depuis, un accord a été trouvé avec des leaders de la contestation. Elle ne pensait jamais gagner sur gazon. Simona Halep a battu Serena Williams en finale de Wimbledon cet après-midi, 6-2, 6-2. Wimbledon qui se termine demain avec la finale. Messieurs, ce sera entre Roger Federer et Novak Djokovic.
France Info.
20h, 21h, les informés, Camille Revel.
Et l'on trouvait ce soir François de Rugy, le ministre de la Transition écologique, un petit peu seul après ces révélations. On cherche ses défenseurs, ce ne sera pas Benjamin Griveaux, hein, le candidat à l'REM pour la mairie de Paris, qui parlait d'une image terrible des hommes politiques quand le gouvernement demande des efforts. Le secrétaire d'État auprès du ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt, lui, réagissait aujourd'hui sur France Info. Écoutez.
Le gouvernement est toujours solidaire de manière générale. Dans cette affaire, il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Il y a des affirmations, des révélations de Mediapart, des images qui interrogent et qui interrogent tout le monde. Il y a des vérifications qui sont en cours et à ce stade, il n'y a rien qui entre dans le champ de la légalité, il n'y a pas d'enquête ou d'information judiciaire ouverte. Pardonnez-moi, mais le rôle d'un responsable politique, d'un membre du gouvernement, c'est aussi d'être à la fois serein, rationnel et de regarder les choses telles qu'elles sont sans se mettre à la place de qui que ce soit et sans prendre le rôle d'un procureur.
Alors, pas d'enquête judiciaire, mais une enquête parlementaire. Hein. Une enquête de Matignon lancée aussi. Raphaël Kahn, vous le trouvez comment, Olivier Dussopt, là, dans cette prestation-là?
Écoutez, je pense qu'il y a, il y a quand même une solidarité gouvernementale qui s'applique parce que, l'un des leurs est en difficulté. Et c'est vrai, ça a un peu surpris beaucoup de monde quand même qu'Édouard Philippe décide de lui maintenir sa confiance. À partir de là, il faut serrer les rangs. Mais comme Nathalie Morel a dit, le gros problème de François de Rugy, c'est qu'il n'a pas de troupes. Il n'a pas de relais au sein de l'Assemblée nationale. Même s'il a été lui-même un parlementaire sur la question de la transparence qui s'est voulu exemplaire, puisque sur la question de la réserve parlementaire, par exemple, il a toujours fait œuvre de transparence. Et d'ailleurs, Julien Bayou, qui intervenait dans mon émission cette semaine, le disait lui-même, ça a été un collègue au sein d'Europe Écologie Les Verts qui, sur cette question-là, était exemplaire. Donc, les Verts eux-mêmes ne comprennent pas, en fait, ce qui se passe, même s'ils réclament, évidemment, sa démission. Non pas parce qu'il est prouvé que François de Rugy se serait mis en dehors de la loi. Pour l'instant, il n'y a rien d'illégal. Mais tout simplement parce que aujourd'hui, on ne peut plus. Et sans doute, il n'a pas réformé autant que ce qu'on attendait de sa part.
Nathalie Moret, cette affaire, c'est un poison lent pour François de Rugy?
Moi, ce qui me choque le plus, si vous voulez, c'est que François de Rugy, il a toujours développé un discours où il voulait que la politique aujourd'hui soit justement pas ça et soit exemplaire. Je me souviens très bien de sa campagne lors de la primaire socialiste, la primaire de gauche. Objectivement, il avait un discours où on n'imaginait pas que 2 ans plus tard, on serait à commenter des histoires de Omar et de Château-Yquem. Donc effectivement, je crois que c'est ça qui paye aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une inadéquation entre ce qu'il dit, entre ses paroles et ce qu'il fait. Certes, il n'y a rien de répréhensible. Encore une fois, personne ne conteste ici le fait que le président de l'Assemblée nationale reçoive et reçoive bien. Le problème, c'est qui il invite à sa table. Et ça, c'est effectivement un gros, gros souci. Et moi, vous disiez que le gouvernement est plus ou moins solidaire. Moi, je l'ai trouvé, au contraire, pas du tout solidaire.
Les façades, ils sont un peu obligés.
Ouais, mais c'est quand même assez timide. Hein. Objectivement, il y a personne qui est monté au créneau en disant c'est un scandale ce qui arrive au numéro du gouvernement. Mieux, Gabriel Attal a même dit on a quand même les boules de voir ça. Donc excusez-moi, mais je trouve que la défense du gouvernement, enfin voilà, clairement, je dirais pas qu'il est lâché, mais pas loin. Je pense que si le Premier ministre l'a soutenu dans un premier temps, c'est que François de Rugy, paradoxalement, il fait le job. Les réunions interministérielles, il est nickel. Il ne monte pas au journal de 20h dès qu'il perd un arbitrage. Il a une crédibilité et il bosse sur le domaine écologique. Donc effectivement, ça embarrasse le gouvernement de devoir peut-être s'en séparer dès la semaine prochaine. On ne sait jamais s'il y a d'autres histoires qui sortent et surtout par qui. Ça, c'est un vrai problème.
Et la parole d'Emmanuel Macron, est-ce qu'elle manque là, ou est-ce que le chef de l'État préfère garder le silence, laisser Édouard Philippe parler?
Il a tout intérêt à laisser son Premier ministre gérer cette affaire. Là, en l'occurrence, c'est le rôle du Premier ministre, du chef du gouvernement, d'essayer de trouver une solution. Mais je pense qu'aujourd'hui, François de Rugy est devenu quand même le maillon faible, encore une fois, parce que à partir du moment où vous affichez la priorité environnementale dans votre déclaration de politique générale, c'était le cas, de la part d'Édouard Philippe, il faut que l'émetteur qui soit en charge de mettre en place et de mettre en œuvre cette politique publique, ces politiques publiques, soient audibles. Là, la difficulté, c'est que chaque fois qu'il sort, on lui renvoie le homard. Et donc, c'est un vrai problème aujourd'hui. Il n'est plus audible. Et même si ce qu'il a fait n'est pas illégal, et il y a tout lieu de penser que ce n'est pas illégal. Le problème, c'est que nous sommes encore une fois dans une époque qui est beaucoup moins tolérante qu'elle ne l'était par le passé sur ce type de pratique. Et ça, ça change tout, du tout au tout aujourd'hui.
Et alors, d'autant que, d'après West France, il y a aussi un dîner avec un lobbyiste. Alors, on s'en souvient, c'est précisément un dîner avec un lobbyiste qui était à l'origine du départ du prédécesseur de François de Rugy, Nicolas Hulot. Dîner d'Emmanuel Macron, hein, rencontre d'Emmanuel Macron avec un lobbyiste. Donc là, en fait, François de Rugy pêche précisément parce que son prédécesseur reprochait à Emmanuel Macron. Donc là, on se retrouve dans une situation quand même compliquée. Il va avoir du mal, François de Rugy, à incarner une intégrité écologique et une volonté écologique au sein de ce gouvernement.
Oui, d'autant plus que quand même, il était une ressource écologique dans ce gouvernement, du fait de son parcours politique. Et le fait de dîner de manière informelle avec des lobbies, c'est tout à fait contradictoire avec l'engagement des Verts, même s'il n'est plus chez les Verts. Les Verts et l'écologie s'est construite quasiment dans son ADN politique en résistance aux lobbies. Donc, il y a là, en tout cas, un comportement qui vient profondément troubler, j'allais dire, la sincérité même de l'engagement du ministre.
On va écouter un verre tout de suite sur France Info, parce que cette affaire, elle pose aussi la question de quelle image pour l'écologie dans un gouvernement qui s'est fait comme vocation pour son acte 2 de mettre l'environnement, le vert, au cœur de son action. Et quand on sait qu'Emmanuel Macron veut faire de l'environnement une priorité, cette affaire, eh ben, elle complique beaucoup de choses pour David Cormon, eurodéputé Europe Écologie Les Verts. Il nous l'a dit tout à l'heure sur France Info. Écoutez.
On a bien vu, depuis que François de Rugy a été nommé, qu'il avait du mal à gagner des arbitrages en termes d'ambition politique en matière écologique. Et aujourd'hui, ça va être encore pire. Sur qui va-t-il s'appuyer pour avoir un rapport de force? Sur le chef de l'État? Sur le Premier ministre? Sur les députés de La République En Marche? On a vu l'attitude de Monsieur Griveaux à son endroit. On peut dire qu'il l'a pas soutenu avec un très grand enthousiasme. Donc en fait, c'est une très mauvaise nouvelle, je l'ai dit, pour l'image de notre démocratie. Pour notre démocratie, c'est une très mauvaise nouvelle également pour l'écologie.
Étienne Girard, très mauvaise nouvelle pour l'écologie, ça?
En tout cas, effectivement, ça obère la capacité de François de Rugy à gagner des arbitrages, à peser politiquement, à taper du poing sur la table, à expliquer que les lobbies ne peuvent pas avoir gain de cause sur telle ou telle question. Et là-dessus, le dîner avec le lobbyiste, avec les lobbyistes, il est aussi grave et aussi dérangeant que l'affaire des homards. Ça a été dit, c'est quand même pour ça que Nicolas Hulot avait quitté le gouvernement. François de Rugy, il était utile jusqu'à présent pour Emmanuel Macron parce que il avait l'étiquette écolo et en même temps, il faisait un peu ce qu'on lui dit. Il était pas... tapait pas trop du poing sur la table, il menaçait pas de démission toutes les semaines, mais maintenant il était suffisamment faible pour rester au gouvernement, mais là il est devenu trop faible pour peut-être rester longtemps au gouvernement, la question étant qui mettre à sa place, parce que des profils dans le casting de La République En Marche, il n'en reste pas énormément.
Il y a Pascal Canfin, mais bon...
Il vient d'être nommé président de la commission environnement au Parlement européen. Donc ce serait quelque peu étonnant, 15 jours plus tard, de le débrancher et de le mettre au gouvernement, même si peut-être que c'est, quand on regarde le casting, le meilleur profil actuellement.
Nathalie Moret, François de Rugy, maintenant, si vous me pardonnez ce néologisme, c'est devenu non plus un atout, mais une épine dans le pied pour la verdisation voulue par Emmanuel Macron.
Totalement. Non seulement c'est une épine dans le pied pour la verdisation de la politique du gouvernement, mais pour même l'image du gouvernement. Je vous assure que les questions au gouvernement mardi à 15h vont pas être une partie de plaisir pour François de Rugy.
Il est 20h50, pas de questions au gouvernement, mais l'essentiel de l'actu avec vous, Solène Cresson, sur France Info.
à 14 juillet sans feu d'artifice dans plusieurs communes de France, annulé à Cavaillon dans le Vaucluse ou encore en Bierle dans la Loire. Les mairies craignent des départs de feu à cause de la sécheresse et elle s'étend encore. 55 départements sont placés en alerte, 20 sont même en crise, le niveau le plus haut. À Paris, la fête nationale est placée sous haute sécurité, des rues, des stations de métro fermées. Les gilets jaunes qui appellent à manifester sur les Champs-Élysées ont interdiction de se rassembler. Mesures de sécurité supplémentaires aussi pour éviter des débordements de supporters de l'équipe d'Algérie. Elle affronte demain soir le Nigeria en demi-finale de la CAN. Un réfugié politique syrien mis en examen, soupçonné du viol et du meurtre de Johanna Blanes à Mont-de-Marsan. Son ADN a été retrouvé sur le corps de la femme de 24 ans, retrouvée dimanche dernier dans un tunnel sous une voie SNCF. Le principal suspect continue de nier les faits. Barry a perdu en intensité, ce n'est plus un ouragan mais une tempête tropicale. Elle touche en ce moment la Louisiane aux États-Unis qui s'est barricadée. En plus des vents à 120 km/h, il va pleuvoir fort, il va pleuvoir longtemps et il y a des risques d'inondations mortelles. Et puis c'est bon, pour le 14 juillet, Julien Alaphilippe récupère le maillot jaune. Notre Français termine 3e de la 8e étape entre Mâcon et Saint-Étienne, remportée par le Belge Thomas De Rendt. Thibaut Pinot a terminé 2e et il est 3e au classement général.
France Info.
20h, 21h, les informés, Camille Revel.
Et nous sommes samedi soir, il est 20h52, très exactement. Place donc au coup de cœur de nos informés. Vous avez tous les quatre choisi une personnalité, des personnalités, voire un livre, une série, une actu qui vous ont tapé dans l'œil. Nathalie Moret, vous avez choisi un livre.
Oui, absolument. J'ai choisi le livre et les circonstances qui s'appelle « Le Tour de France et la France du Tour » de notre consoeur Béatrice Houchard, qui a été longtemps journaliste politique au Parisien et au journal L'Opinion. Autant le dire tout de suite, je suis pas une passionnée du Tour de France. Son bouquin est formidable. Il est absolument formidable parce que quand on s'intéresse un petit peu à la politique et au Tour de France de loin, je vous assure que ça vous donne envie d'allumer la télé l'après-midi pour regarder ce qui s'y passe. C'est passionnant. Moi, j'ai appris plein de choses. Voilà, j'ai appris que le Tour de France, en passant à Colombey les deux églises dans les années 60, ils s'étaient neutralisés. Ils avaient tous les coureurs avaient salué le général de Gaulle qui était sorti de chez lui. Enfin, il y a des tas d'anecdotes comme ça, c'est absolument passionnant. Et puis ça dit une France que de Paris on connaît finalement assez mal. Et il y a plein d'anecdotes, c'est absolument passionnant. Donc je vous encourage à le lire. C'est le Tour de France et la France du Tour, et c'est chez Calman Lévy.
Et ça s'est affiché si vous nous regardez sur le canal 27 de la TNT ou sur notre site franceinfo.fr. Du vélo, on passe au tennis. Raphaël Kahn, vous avez choisi deux machines de guerre.
Ouais, alors bah, je suis très triste aujourd'hui parce que Serena Williams a perdu en finale de Wimbledon face à Simona Halep. Bon, c'est un phénomène parce que, enfin, voilà, continue à être au sommet à son âge, puis elle a tout gagné. Et puis bon, elle incarne, c'est bon, une réussite pour plein de jeunes américaines, notamment dans des quartiers pas faciles. Elle a perdu une de ses sœurs quand même dans la guerre des gangs, donc je sais pas, c'est une famille qui a une histoire compliquée, et elle a su mettre tout ça de côté. Et puis bon, il y a encore un espoir demain de voir triompher Roger Federer. J'adore ce mec, voilà, je le dis, j'aime beaucoup ce joueur. C'est plus qu'un joueur de tennis, c'est comme Mohamed Ali, c'est comme Pelé, comme Ayrton Senna, c'est des gens qui ont dépassé en fait le cadre de leur sport, parce qu'ils ont su sublimer et le rendre, je pense, appréciable pour énormément de gens qui ne sont pas spécialement des fans de tennis. Voilà. Et quand on regarde Federer jouer, je pense que même quand on n'aime pas le tennis, on peut apprécier ce qu'il fait.
Ils sont devenus des légendes.
Oui.
Étienne Girard, on allume la télé avec vous. Vous avez choisi une série.
Tout à fait. Alors, on allume la télé ou on se rend sur le site internet d'Arte pour regarder Jeux d'influence. C'est une série française. C'est un peu House of Cards au pays du lobbying. On suit les traces d'une journaliste en manque d'argent qui se voit proposer un salaire extravagant pour défendre les intérêts d'une société qui produit un pesticide cancérogène qu'un député menace d'interdire. Et donc, évidemment, elle va essayer d'empêcher l'interdiction de ce pesticide pourtant dangereux pour la santé. Ça dit beaucoup du rapport entre lobbyistes, élus, journalistes et un peu du jeu d'échecs qui s'instaurent quand des intérêts et des sommes d'argent astronomiques sont en jeu, et de comment on peut essayer, pour arriver à ses fins aussi dans la vraie vie, de salir les acteurs d'un dossier comme celui-là. Voilà, ça raconte un peu les cuisines peu reluisantes de la République et du processus législatif. C'est passionnant, c'est français, c'est bien joué. Allez, d'urgence sur le site d'Arte, puisque c'est en accès gratuit.
Combien d'épisodes ?
6 épisodes.
Et vous les avez regardés en une seule nuit ?
Pas en une seule nuit, en 2 jours.
Bon. Ah, et Jeux d'influence, inséré donc sur Arte et disponible sur arte.fr.
C'est ça.
Arnaud Benedetti, vous avez choisi un ouvrage, vous ?
C'est un historien, Pierre Laborie, qui nous a quittés en 2017, qui est un spécialiste de l'opinion publique sous Vichy. Il avait écrit un livre qui est un livre phare pour comprendre les mécanismes de formation de l'opinion publique sous Vichy, et qui, c'est les éditions Gallimard qui édite une série d'articles qu'il a publiés qui s'appelle « Penser l'événement ». Qu'est-ce que c'est qu'un événement historique ? Et qu'est-ce qui fait histoire ? Comment se construit l'événement ? C'est à ces questions qu'il essaye de répondre, montrant que l'événement historique, c'est quelque chose qui finalement évolue au cours du temps. On n'a pas les mêmes représentations de la Seconde Guerre mondiale, de l'occupation aujourd'hui, que celles qui étaient les représentations, par exemple, juste de l'après-guerre, voire des années 60, voire des années 70. Il montre que la dynamique événementielle sur le plan historique se transforme au fur et à mesure du temps, des époques, des mémoires et aussi parfois des usages politiques que peuvent faire les hommes politiques des événements historiques.
Arnaud Benedetti, vous collaborez aussi à la revue Politique et Parlementaire, un dernier numéro consacré à l'Europe et l'Union européenne, avec une question, un couple impossible ?
C'est une question que l'on pose. Un certain nombre de nos contributeurs essayent d'y répondre.
Et la réponse, c'est oui ou c'est non ?
Eh bien, elle est partagée.
Nathalie Mouret, le chef d'état-major des armées, s'exprime dans les journaux du groupe EBRA.
Absolument. Demain, il y a une page pleine d'interviews où il revient sur le rapport des Français avec son armée. Il revient aussi sur la notion d'héroïsme qui, pour lui, doit être collective. C'est un entretien absolument passionnant qu'a fait mon collègue Xavier Frère.
Et c'est donc à retrouver dans les journaux du groupe EBRA. Merci à nos 4 informés. C'est déjà la fin. Il est presque 21h. Nathalie Mouret, vous êtes journaliste politique au bureau parisien du groupe EBRA. Donc Arnaud Benedetti, professeur associé en histoire de la communication à l'université Paris 4 Sorbonne. Vous signez le livre Le coup de com' permanent. C'est aux éditions du Cerf. Raphaël Kahn, journaliste présentateur à France 24. Le débat tous les jours. Et vous, Étienne Girard, journaliste politique à Marianne. Avec vous, on a fait le tour de l'actualité. On a fait le tour du défilé du 14 juillet. Que va-t-il se passer demain ? La réponse, ce sera dans les informés, puisqu'on va se retrouver sur le même plateau demain soir à la même heure sur France Info, à la réalisation de cette émission Hélène Ginessous, à l'édition visuelle Maureen Suignard. L'info revient tout de suite sur France Info, enfin juste après la météo. Moi je vous dis à demain, même heure, même studio.